journal de l'économie avec François Geffrier.
L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Comment stopper l'explosion des arrêts maladie observés depuis le Covid? Pourquoi le vétéran de l'industrie américaine General Electric se coupe en trois sociétés distinctes? Et puis quelle est la tendance des ventes aux enchères de vin cette année? Depuis quelques années, c'est une envolée. Le coût des arrêts maladie, 11 milliards d'euros en 2010, 16 milliards en 2022. Et ce, malgré les trois jours de carence que connaissent les salariés du privé, qui ne reçoivent donc une compensation de leur salaire de la part de l'assurance maladie qu'au quatrième jour d'absence. Les entreprises compensent bien souvent et voient donc d'un mauvais œil les réflexions du gouvernement quant à l'idée de rallonger cette période de carence pour faire des économies dans la dépense publique. Jean-Yves Duménil est le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Si l'idée du gouvernement, c'est simplement de considérer qu'on va laisser davantage payer les entreprises plutôt que la sécurité sociale, parce que malheureusement c'est ça qu'ils envisagent, en disant la sécurité sociale ne prendra plus ses 50% entre le troisième et le huitième jour, et ce sera l'employeur qui compensera. C'est plusieurs milliards d'euros, c'est bien ça dont on parle. On refile simplement la patate chaude aux employeurs et on ne prend aucunement ses responsabilités en faisant en sorte d'organiser autrement le nombre de jours d'arrêt maladie. C'est évidemment pas acceptable, c'est trop facile en quelque sorte.
Les jours de carence, bonne ou mauvaise piste d'économie, on en reparle avec François Vidal à 7h10 dans son édito Éco. On parlait d'ailleurs ce matin de la qualité de la dépense publique. C'était la chronique de Natacha Vallas ce matin à 6h20 à retrouver en podcast, les classiques de l'économie. Natacha Vallas qui joue les prolongations ce matin, elle est avec nous aussi dans les voies de l'économie à 7h15 et cette fois-ci on parlera de la productivité et cette question, peut-on ou pas augmenter les salaires? Sommes-nous en train d'assister à la fin d'un modèle, celui des groupes conglomérats qui étaient autrefois applaudis par les marchés, qui voyaient une sécurité supplémentaire, puisque si l'un des métiers du groupe se porte mal, les autres compensent. Les conglomérats subissent aujourd'hui une décote en bourse et les projets de scission se multiplient. Sodexo, Vivendi, Solvay, pour ne citer que trois exemples récents près de chez nous. Mais aux États-Unis aussi, voilà qu'un poids lourd et acteur historique se découpe en trois. Éric Mauban, c'est aujourd'hui que General Electric démarre sa nouvelle vie en plusieurs morceaux.
Effectivement, aujourd'hui, les actionnaires de General Electric vont recevoir une action General Electric Vernova. Il s'agit de la société qui regroupe toutes les activités du conglomérat dans l'énergie, l'éolien et l'électrification. Le titre intégrera dès aujourd'hui l'indice S&P 500. L'activité santé de General Electric a pris son indépendance l'an dernier. Il reste donc General Electric Aerospace. Trois sociétés désormais distinctes. Cette scission va permettre à chaque entreprise de se focaliser davantage sur ses marchés respectifs et d'optimiser ses opérations, d'être plus agile pour répondre aux besoins de ses clients. Les prises de décision et l'exécution de la stratégie s'en trouveront facilitées. Cela devrait permettre d'améliorer les performances financières de chacune d'entre elles grâce à une meilleure allocation des ressources et une meilleure gestion des risques. Enfin, le but d'une telle scission est également de favoriser une meilleure valorisation boursière en offrant aux investisseurs une plus grande visibilité sur les perspectives de chaque société.
Éric Mauban en direct. On suivra effectivement l'évolution de ces nouvelles sociétés issues de General Electric, la filiale Health Care, qui avait été détaché du groupe il y a un peu moins d'un an et demi, a gagné depuis 57% et pèse aujourd'hui 40 milliards de dollars de capitalisation. Les marchés financiers ce matin, c'est Tokyo. Le Nikkei est en ce moment stable, moins 0,04%. L'euro vaut 1,0733. Le pétrole, le baril de Brent, est à 87,85. Un autre type de marché, ce mardi matin, est publié le baromètre annuel Ideal Wine des ventes aux enchères de vin. Un indicateur très suivi par la profession qui permet de dégager les grandes tendances du moment. Bonjour Angélique de Lanxin.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice du site Ideal Wines. Alors comment se porte ce marché des enchères de vin?
Alors le contexte n'a pas été porteur en 2023, puisque les exportations de vin ont diminué de 9% en volume et de 3% en valeur l'année dernière. En revanche, sur le marché secondaire des ventes aux enchères de vin, l'histoire est très différente, du moins sur la plateforme d'Ideal Wine, parce que le marché s'y est montré très dynamique, avec plus de 220 000 bouteilles qui ont été adjugées aux enchères, ce qui représente une progression de 12% des volumes. En revanche, en termes de prix, le dynamisme des ventes s'est opéré au prix d'un réajustement assez net des cours, puisqu'on a vécu un repli de 22% du prix moyen de la bouteille adjugée, qui s'est établi à 152 euros.
De quelle vente un peu remarquable pouvez-vous nous parler cette année, Angélique de Lanxin ?
La bouteille la plus chère adjugée l'an dernier a été une bouteille de Romanée Conti 2015 qui s'est vendue 22 912 euros. D'une manière générale, d'ailleurs, les flacons de Bourgogne ont un peu monopolisé les palmarès des bouteilles les plus chères l'an dernier. En revanche, en termes de lots adjugés, le Bordeaux retrouve des couleurs avec notamment un lot de 6 magnums de Petrus 1982, donc millésime aujourd'hui devenu assez rare et toujours assez mythique, qui s'est vendu 43 820 euros, ce qui représente un peu plus de 7 300 euros le magnum. Alors ça, ce sont des régions très classiques, mais on a eu quelques surprises dans des appellations qui sont moins souvent sous le feu des projecteurs, comme le Mâconnais, avec un Pouilly Fuissé du domaine Guffin-Sennen, qui a été adjugé 876 euros, ou dans le Jura aussi, des vins nature, comme celui du domaine des Miroirs, la cuvée I Need the Sun 2015, qui a été adjugée 1922 euros, par exemple.
Que de très beaux noms. Effectivement, comment évolue la géographie des vignobles qui sont représentés ?
Alors disons que les trois régions traditionnellement les plus présentes dans les ventes aux enchères, que sont Bordeaux, la Bourgogne et la vallée du Rhône, représentent toujours une part écrasante des enchères, hein, 73% des volumes adjugés et 81% de la valeur. C'est un petit peu ce que l'on peut appeler le fonds de portefeuille, la partie père de famille d'une cave patrimoniale. Mais dans ce qui reste, dans les 27% restants en volume, c'est là où se nichent de nombreuses petites étoiles, des pépites que l'amateur doit vraiment suivre, dans des régions comme le Jura, des vignobles un petit peu confidentiels comme la Savoie, la Corse ou encore l'Alsace pour ses pinots noirs, et bien sûr l'Italie, par exemple, qui regorge de trésors.
Ouais, même si tout cela peut faire rêver à 6h54 du matin, on va bien sûr y aller avec modération. Merci Angélique Dallan-Quezin, cofondatrice du site Ideal Wines ou Ideal Wines. C'est comme on veut, qui publie donc ce baromètre 2023 des ventes aux enchères de vin. Il est à 6h55 pour permettre à tout un chacun de manger à sa faim et sainement. Le département de la Gironde teste une sécurité sociale de l'alimentation. Les participants cotisent chaque mois et reçoivent une allocation pour leur nourriture. Une vingtaine de territoires, dont Montpellier, ont déjà lancé des expérimentations de ce type, mais le modèle économique reste fragile, Zoé Pallier.
Dans la ville de Bègles, une centaine de volontaires contribuent à cette nouvelle caisse commune de l'alimentation. Ils cotisent à hauteur de leurs revenus et reçoivent au minimum 150 euros par mois pour acheter par exemple des pâtes ou des légumes. Amélie Cohen-Langlais, adjointe au maire.
Pour quelqu'un au RSA, c'est une somme très considérable. Et puis aujourd'hui, avec l'inflation, même les personnes un peu au-dessus du SMIC ont besoin d'être aidées aussi sur leur budget alimentaire.
Et cela profite aussi aux commerces locaux, car cette somme ne peut être dépensé que dans certains magasins conventionnés, indique Antoine Bernard de Raymond, directeur de recherche à l'INRAE.
C'est des lieux qui doivent répondre à un certain nombre de critères, notamment éthiques sur les relations avec les fournisseurs. Ça peut être des producteurs qui font de la vente directe, des supermarchés coopératifs.
Mais en Gironde comme ailleurs, ces caisses reposent pour l'instant sur des subventions de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elles ne sont pas à l'équilibre, précise l'agronome Mathieu Dalmet.
À Montpellier, on est sur 100 euros par mois distribués. On a une moyenne des cotisations de 60 euros. Donc, le complément dépend d'apports extérieurs tels que les collectivités et les fondations.
L'équilibre financier fait pourtant partie des critères qui seront retenus pour tirer un bilan de l'expérimentation en Gironde avant une éventuelle généralisation du système.
Zoé Pallier pour Radio Classique dans ce journal de l'économie que vous pouvez retrouver en podcast, bien sûr, sur l'application Radio Classique. Dans quelques instants, David Abiker arrive pour le 7-9 de Radio Classique.